طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، وإن شاء الله تعالى on va commencer aujourd'hui un nouveau cours sur notre matière, le tawhid, l'unicité d'Allah, Jalla wa Ala, notre noble matière, la plus noble des matières. Et la plus importante. Alors attention à une chose. Alors attention à une chose, c'est que même si on a une matière comme le tawhid qui est considérée comme plus importante, certaines autres matières, comme le comportement ou le fiqh, elles sont également importante car reliée à ce tawhid. Si on n'a pas le comportement, on aura un énorme manque dans le tawhid. Il y aura ce qu'on appelle une contradiction avec notre tawhid ou un manque, diminution également dans le fiqh. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'erreur de beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que si on se focalise uniquement sur le tawhid, on peut se passer du reste. Ça, c'est un stratagème du shaitan monumental. Alors, il y a un fondement très important. En début de cours ici, qu'il est très important, mais vraiment c'est fondamental, de l'assimiler et de le mettre en pratique, parce que sinon on est sûr de ne pas être sur la bonne voie. C'est le juste milieu. Parce que on va vous donner deux extrêmes. On va vous citer deux extrêmes pour que vous compreniez l'importance de se situer dans le juste milieu. On va vous citer deux extrêmes. Le premier extrême, c'est celui qu'on vient de vous citer. Ce sont des gens qui se concentre sur le tawhid. Alors à la base, ça c'est bien. Ça c'est bien. Pendant une période, ça c'est bien. Tu te concentres sur le tawhid. C'est le matloub, c'est-à-dire c'est ce qui est demandé. Il faut apprendre le tawhid, mais il délaisse le reste. Et ça donne ce que vous savez. Des gens de la sunna qui sont concentrés sur le tawhid, aucun comportement. Aucune base dans le fiqh, aucune base dans les autres matières. Donc en réalité, eux, ils se sont fait avoir, ils pensent, on a le tawhid, on maîtrise le tawhid, mais c'est faux en réalité. Il y a un manque. Parce que celui qui maîtrise le tawhid, quand il va le mettre en pratique, le reste va suivre. Le comportement, le fiqh, et tout le reste. Ça, c'est le premier extrême dans lequel il ne faut pas tomber. Naham. Regardez le stratagème du shaitan. Alors, quand certaines personnes ont vu cette erreur, ils ont vu cette erreur de beaucoup de gens, de se concentrer sur certaines choses et de délaisser des choses aussi importantes. Aussi importantes. Pas plus importante, mais autant importante. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils se sont fait avoir par le shaitan. Parce qu'ils se sont dit, alors nous on va pas suivre leur méthodologie de tawhid, 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 et de casser du sucre sur les autres toute la journée, etc. De se dénigrer les uns les autres, de devenir sectaires. Nous on va vraiment mais prendre nos distances avec ça, mais le problème, c'est qu'à partir d'une vérité, parce que ce qu'ils revendiquent, c'est vrai, mais le shaitan, il les a fait partir à l'opposé. Nous, on veut plus de cet enseignement académique, tawhid, et puis il n'y a rien à côté. Ça, c'est un autre extrême. Ça, c'est un autre extrême. Donc là, on vous a donné deux extrêmes. Les deux, ils se sont égarés. Alors, on n'a pas dit c'est des égarés, c'est des innovateurs. Non. Il y en a, oui, ils sont partis dans l'innovation. À force, il y en a, ils sont tombés dans la haddadiyya. El-Muhim. Vous voyez ces deux extrêmes? Les vrais gens de la sunna, ils sont entre les deux. Les vrais gens de la sunna, ils sont dans le juste milieu. C'est une règle, hein. C'est une règle. On doit se situer dans le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est de réunir les deux. sans être ni dans l'un ni dans l'autre? Comment on réunit les deux? On part du principe que, sans aucun doute, on doit apprendre le tawhid, on doit se focaliser sur le tawhid, on doit maîtriser le tawhid. Mais à la différence des autres, du premier extrême, on doit pratiquer à 100% le tawhid. Concrétiser ce tawhid. Parce que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui concrétise le tawhid, il ira au paradis. Donc, il n'a pas dit celui qui va étudier, celui qui va revendiquer, celui qui va montrer, celui qui le concrétise, qui le met en pratique. Donc, par rapport au premier groupe, il faut rajouter, pour être dans le juste milieu, la pratique. Et cette pratique, elle va amener à quoi? À la piété. Pas à des gens qui se disent tawhid toute la journée, mais il n'y a aucune piété, il y a contradiction. Rempli de haine, rempli de tout ce que vous savez. Non. Donc tu te démarques par rapport à la pratique. À la pratique. Ça va t'amener au comportement, ça va t'amener à tout, tout ce qu'il y a autour. Alors, on ne peut pas faire le détail, mais c'est ce qu'on va apprendre ici à l'institut. C'est tout ce qu'on va apprendre ici à l'institut. Le deuxième extrême, comment pas tomber dedans et rester dans le juste milieu? Bah, c'est de toujours garder la méthodologie des salafs. Bien sûr qu'il y a un apprentissage académique, bien sûr qu'il y a des livres à apprendre, bien sûr, mais selon la méthodologie des salafs, des ulama de la sunna, pas des gens qui sortent de nulle part. Et il y a que c'est que du gratte-papier, c'est que de la lecture, il n'y a rien. Donc à partir de ce moment-là, faut pas se détacher de la méthodologie des salafs, de l'enseignement académique et pratique. Faut pas s'en détacher. Sinon, on va tomber dans la deuxième forme qu'on a donnée. C'est des gens, ils veulent se détacher de l'enseignement des savants en vérité. Petit à petit, le shaitan, il va les emmener à se détacher de l'enseignement de nos savants, de nos grands savants. Parce que les grands savants, si vous regardez aujourd'hui, ils ont tous la même méthodologie, sauf que ce sont des savants éducateurs. La différence, c'est dans le terme éducateur. Si vous préférez, voilà le juste milieu. Il faut se situer dans ce juste milieu si tu veux suivre la vérité. Ne pas tomber dans un extrême qui est... Comme le revendique le deuxième exemple, c'est trop, c'est que académique, on fait des livres, mais il n'y a rien à côté. Ça, c'est une vérité. Mais faut pas non plus tomber dans, eh ben, on va délaisser cet enseignement académique, faire des livres, faire des... Non. Les deux, ils sont tombés dans l'extrême. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man qablikum, man kana qablikum. » Attention à l'exagération, l'excès dans la religion. Se sont égarés ceux d'avant vous dans l'excès de la religion, par la cause de l'excès dans la religion. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. C'est un fondement, c'est une règle, c'est une base. Attention, situez-vous dans le juste milieu, ni dans l'excès, ni dans le laxisme. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, inshallah ta'ala, on avait commencé notre ouvrage Al-Wajibat Al-Mutahattimat, le premier ouvrage qu'on va étudier ici dans notre nouvelle classe pour les nouveaux, les obligations qui incombent à tout musulman et musulmane de connaître. Donc le titre, al-wajibat, les obligations. On avait donné la définition dans un cours précédent de l'obligation. L'obligation, la définition, c'est pratiquer l'obligation. On est récompensé pour cela et délaisser une obligation, on est châtié pour cela. Alors, l'obligation, on va vous rajouter une faïda qu'on n'avait pas dit auparavant. Désolé, toujours enrhumé. L'obligation, elle se divise en deux catégories. L'obligation, elle se divise en deux, elle est de deux formes. Il faut être conscient et faire attention à ça. Comme ça, quand on entend le terme obligatoire, on sait ou on cherche à savoir de quel obligatoire il s'agit. L'obligation est de deux catégories, l'obligation absolue et l'obligation non absolue. L'obligation absolue, ça veut dire que c'est obligatoire pour tous ceux qui sont responsables. Celui qui n'est pas fou, celui qui ne dort pas, celui qui n'est pas malade, celui qui n'a pas oublié, etc. Ça, ce sont les excuses, les empêchements. À part cela, tous les autres ont dit qu'ils sont à charge, responsables, mukallaf. Donc l'obligation absolue, c'est ce qui est obligatoire à tout responsable. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, l'obligation absolue, si tu ne la fais pas, il y a un péché derrière. La deuxième forme d'obligation, c'est l'obligation qui n'est pas absolue pour tout le monde. C'est-à-dire que cette forme d'obligation, si une partie de la communauté se charge, s'en charge, eh ben c'est pas obligatoire pour l'autre partie de la communauté. On va vous donner des exemples pour mieux comprendre, hein. Salat ou salat al-janaza, la prière mortuaire. C'est obligatoire, mais ce n'est pas un obligatoire absolu. Pourquoi? On appelle ça fard kifai. C'est-à-dire que si une partie de la communauté, il y a un groupe déjà qui va prier sur le mort, eh ben, ce n'est pas toute la communauté qui sera obligée de prier sur ce mort. Ça veut dire que c'est une obligation, mais pas absolue. Pas absolue. On a également, il y a d'autres exemples, hein. Salat al-Janaza, Mouhim, il y a énormément d'exemples. Donc, l'obligation, elle se divise en deux catégories. L'obligation qui est visée dans notre titre ici, dans notre risala, c'est quelle obligation? C'est l'obligation absolue. Ça veut dire que celui qui ne va pas apprendre le tawhid, celui qui ne va pas apprendre ce qui est obligatoire de connaître dans le tawhid, il y a un châtiment derrière. Voilà, il faut savoir qu'il y a un châtiment derrière. C'est une obligation absolue. Quand on rentre en islam, on dit La ilaha illallah. Mais après, il faut l'apprendre, ce La ilaha illallah. Celui qui ne l'apprend pas, qui n'a pas compris le sens, qui ne s'éloigne pas de tout ce qui contredit ses actes, ses annulatifs, etc., c'est sûr que. Il risque un châtiment. Naam. Il y a même des savants qui ont dit que lorsque quelqu'un il se convertit, il y a des savants qui disent lorsque quelqu'un il se convertit, donc juste le fait qu'il témoigne de la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, ça le fait entrer en islam. Ça le fait entrer en islam, ça, c'est clair. Il n'y a pas de... Ça le fait entrer en islam. Mais les savants disent, pour vraiment accepter et valider son islam, on va voir comment il se conduit après. Est-ce qu'il fait la prière? Est-ce que... Pour qu'il valide son tawhid. Naam. Wallahu a'lam, il y a des savants qui disent ça. Donc, apprendre le tawhid, comme vous pouvez le constater, c'est une obligation absolue. Obligation absolue. Ensuite, on avait vu la basmala, que les grands savants, au début de leurs ouvrages, ils commencent par la basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah. Donc revenir au cours précédent, pour celui qui veut le détail, pourquoi on dit Bismillah? Pourquoi les savants, lorsqu'ils commencent leurs ouvrages ou leurs douloureux, leurs cours, leurs écrits, ils commencent par Bismillah. En imitation au livre d'Allah, le Coran qui commence par la basmala, également parce que c'est une sunna prophétique, c'est la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, mais c'est également la sunna, la tradition des prophètes en général. Taïb. Alors. Bismillahirrahmanirrahim. Usulu thalathatu. Usulu thalathati allati yajibu ala kulli muslim wa muslima ma'rifatuha. Donc on nous dit, après avoir expliqué le basmala, ainsi que les différents termes très importants contenus dans le titre de cette épître, on nous dit les trois fondements qu'il est obligatoire de connaître pour tout musulman et musulmane. Les trois fondements. On va commencer par le terme fondement, base plutôt, usul. Usul, c'est le pluriel de asl en arabe. Asl, ça veut dire une base. Usul, c'est le pluriel, ça veut dire des bases. Des bases, des fondements. Qu'est-ce qu'une base? Les savants ont donné multiples définitions, mais la définition la plus, wallahu a'lam, répandue, la définition que nous rapporte Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, c'est que une base, c'est ce sur quoi va se construire autre chose. C'est tout ce sur quoi va se construire une autre chose. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Ma yabni alayhi ghayruhu. C'est ce sur quoi vient se construire une autre chose. Il y en a qui ont dit que dans la langue arabe, c'était le fondement de toute chose, assas kulli shay. Une base, c'est le fondement de toute chose. Naam. Ces trois fondements dont on parle ici, ce sont les trois fondements, les trois bases les plus importantes qui comprennent tout l'islam. On va parler de trois fondements ici. Ce sont les trois fondements qui comprennent tout l'islam. C'est-à-dire que tout l'islam va venir se baser, tout le reste, il se base sur ces trois fondements ici. Quels sont ces trois fondements? Connaître son Seigneur, connaître sa religion et connaître son prophète. Alors, on nous dit que la connaissance de son Seigneur, la connaissance du serviteur de son Seigneur, elle est de deux genres. Elle est de deux genres. C'est-à-dire, on peut connaître son Seigneur sous deux formes. La première, l'acceptation de son Seigneur. La véracité rend véridique tout ce qui vient du Seigneur. La foi en Allah. Ça, c'est général pour tous les musulmans. Comme vous le savez, ça, c'est général pour tous les musulmans. L'acceptation, la véracité rend véridique tout ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Accepter notre Seigneur et la foi. Ça, c'est général pour tous les musulmans. Alors, on nous dit que les koffars, ils ne connaissent pas leur Seigneur et ne croient pas en leur Seigneur. Taïb, comme vous le savez, les koffars, les mécréants, ne croient pas, ne connaissent pas leur Seigneur et ne croient pas en lui. La deuxième forme de connaissance du Seigneur, elle est plus particulière. Elle est plus particulière. Si vous préférez, c'est un degré au-dessus. Ça, c'est pour les croyants. Parce qu'on apprendra dans les cours de Tawhid que l'islam a trois degrés. Il y a le degré où tu es musulman, c'est le premier étage. Il y a le degré plus haut où tu es croyant, c'est le deuxième étage. Et il y a le degré où tu es muhsin, muhsin, bienfaiteur, celui qui excelle. L'excellence, la bienfaisance, al-ihsan, on appelle ça. Hein? Muhsin, c'est l'ism maf'oul, c'est-à-dire c'est celui qui fait l'ihsan. Mais ce troisième degré, c'est al-ihsan, la bienfaisance, l'excellence. Donc cette deuxième catégorie de connaissance du Seigneur, on a la première, c'est pour tous les musulmans. C'est le degré minimum. Connaître, accepter son Seigneur, avoir la foi en son Seigneur. Ça, c'est pour tous les musulmans. Mais ensuite, on a un degré, deuxième degré plus élevé. On appelle ça la connaissance particulière spécifique. C'est la connaissance وهي معرفة تقتضي من القلب إلى الله. Là, c'est quand vraiment tout ce qui implique la connaissance du Seigneur, elle est dans le cœur de la personne, dans son cœur. C'est-à-dire qu'il se coupe de toute autre chose que son Seigneur. Il s'éloigne de tout ce qui est autre que le Seigneur. Donc ça, c'est un degré. C'est le degré au-dessus. Ça, c'est vraiment quand le tawhid, il est rentré dans ton cœur. Ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a rien d'autre à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est rempli de tawhid. Concernant la connaissance du serviteur de son Seigneur, c'est-à-dire pour concrétiser la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a trois choses. Il y a la connaissance de la seigneurie d'Allah, rububiyatihi. Il y a la connaissance de la divinité d'Allah, uluhiyatihi. Et il y a la connaissance des noms et attributs d'Allah. Les noms et attributs d'Allah. Ce qui signifie que pour connaître Allah Ta'ala, ça passe par trois étapes, c'est-à-dire les trois catégories d'unicité. Quand tu vas essayer ou quand tu vas essayer de connaître ton Seigneur, tu vas le connaître, tu vas connaître. Tu vas savoir qu'il faut connaître ça, son unicité. Son unicité, elle passe par quoi? Elle est de trois formes, son unicité, de trois catégories. Donc, tu vas devoir connaître Allah dans sa seigneurie. On va expliquer en détail. Hein. Dans sa divinité et dans ses noms et attributs. À la kulli hal, il y a un chapitre où on va expliquer tout ça un peu plus en détail. Hein. Il y a un chapitre sur ces trois catégories. Désolé. Alors, je répète pour les élèves. Pour les anciens élèves qui sont présents dans ce cours, ici on ne fait pas la même explication que la précédente. On a dit dans un cours précédent, parce que vous allez remarquer que ce n'est pas la même explication. Ici on a dit que dans ce cours, on faisait notre propre explication, celle qu'on a tirée du Yémen il y a une vingtaine d'années. Taïeb. Comme ça, les deux classes, l'ancienne et la nouvelle, pourront ensuite réviser, quand ils voudront réviser, ils auront, chacun aura, on partagera les cours de la première classe à la nouvelle classe et les cours de l'ancienne classe à la nouvelle. Et comme ça, vous pourrez réviser sous une nouvelle forme. Vous verrez, ça sera profitable. Ceux qui veulent réviser, ils pourront écouter des nouveaux cours de l'explication de cette épître. Voilà, en fait. Pour réviser, vous aurez je ne sais pas combien de cours, et vous pourrez réviser en écoutant des nouveaux cours. Non. Alors, on en était où? En ce qui concerne les trois formes, trois catégories d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va, inshallah ta'ala, dans un chapitre qui sera à la suite. Il y a un chapitre spécifique. On va les prendre une par une et on va les détailler, inshallah ta'ala. Tayyib. Alors, lorsqu'on te dit qu'il y a trois fondements Lorsqu'on te dit qu'il y a trois fondements, le premier fondement, connaître son Seigneur, connaître sa religion et connaître son prophète. Connaître son Seigneur, donc connaître son Seigneur. Comment on fait pour connaître Allah? La question se pose. On te dit, tu dois connaître ton Seigneur. Comment tu fais pour connaître ton Seigneur? Les savants disent, il y a deux manières de connaître ton Seigneur. Il y a deux manières. Et ces deux manières qu'on va mentionner, plus tu vas les mettre en pratique, et plus tu vas connaître ton Seigneur. Et il y en a, à force, ils sont même devenus des savants. À force, hein. Puisqu'à force de mettre en pratique ces deux formes, ces deux manières de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ben, ils ont atteint ce qu'on appelle la crainte. Et la crainte, elle est réservée aux savants. Aux savants. Ça aussi, on va le voir en détail dans les cours plus tard. Donc, quelles sont ces deux formes pour atteindre la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala? On a dit qu'il y a deux manières pour connaître ton Seigneur. Quelles sont ces deux manières? La première manière, c'est de méditer sur les signes universels. La première manière, c'est de méditer sur les signes universels. Qu'est-ce que les signes universels? Le soleil, ce sont les signes de la création. En arabe, on dit al-alamet ou l'ayat al-kawniya, universel, les signes universels. C'est-à-dire, tu vas méditer sur la création d'Allah, tout ce qu'il y a autour de toi, soleil, la terre, l'océan, tout ce que tu veux, la lune, les étoiles. En méditant sur tout ce qui t'entoure, ça va t'apprendre à connaître ton Seigneur. Il y a une parole de savant qui dit, dans toute chose, il y a un signe de la divinité, ou plutôt de l'unicité d'Allah. On a dit la divinité, c'est la même chose, hein, mais pour mieux faire comprendre. Si on traduit la parole des salafs, c'est, en toute chose, il y a la divinité. C'est-à-dire, dans toute chose, il y a un signe de l'unicité d'Allah au Ta'ala. Subhanallah. Aujourd'hui, comme vous le savez, et c'est un des stratagèmes, alors dans un même temps, c'est une épreuve d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah wa ta'ala dit dans le Coran, dans le sens parmi les versets, hein, nombreux, hein, celui qui veut la vie d'ici-bas, on lui donnera. Celui qui veut la vie de l'au-delà, on lui donnera. Man yurid al-thawab ad-dunya, c'est-à-dire celui qui veut la récompense, la parure de cette vie d'ici-bas, on lui donnera. Man yurid al-thawab al-akhirah. On lui donnera. Donc, il y a une. Dans un même temps, une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour, ben voilà, c'est tout est enjolivé, tout est comme maquillé pour que celui qui va vers le rappel d'Allah, c'est vraiment qu'il l'a voulu. Celui qui est laxiste ou autre, il va oublier, il va être distrait. Et également, dans l'eau, il y a le shaitan avec son stratagème, qui fait tout pour enjoliver cette vie d'ici-bas, toutes les parures de la vie d'ici-bas, il te les enjolive. Ça va briller dans le cœur, dans les yeux de la personne, et en réalité, y a rien. Tu t'attaches à du éphémère, à du... Et tu seras tellement dedans. Alors pourquoi on vous a dit ça? On vous a rappelé cela parce qu'il y a des gens, ils sont tellement dedans. Et on va vous donner un petit récit pour vous faire comprendre encore mieux. Il y a des gens, ils sont tellement dedans, bah, qu'ils ont oublié, ils ne méditent même pas, ils ne voient même pas devant eux les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ouais, si j'ai de l'eau, c'est parce que j'ai ouvert le robinet, hein. Si j'ai de l'eau, c'est parce que j'ai ouvert le robinet, hein. Wallah al-musta'an. Et avant qu'elle vienne dans le robinet, elle est venue d'où l'eau? Elle est venue d'où l'eau? Ah, elle vient de la nappe phréatique, de la source de... Ah, d'accord. Et avant de venir dans la source, elle est venue d'où l'eau? Ben, elle tombe du ciel. Ah, d'accord. Et qui fait tomber l'eau du ciel? Ça, ils ont oublié. Ils ont oublié. On oublie. Le steak, on va l'acheter au supermarché. Mais on a oublié, à l'origine, d'où vient le steak. On a oublié. Etc., etc. Tout est fait pour que tu oublies le rappel d'Allah. Mais par la grâce d'Allah, il y a des gens, ils n'oublient pas le rappel d'Allah. Ils n'oublient pas, pardon, les signes d'Allah. Ils n'oublient pas. Chaque chose qu'ils voient, pour eux, c'est un signe. C'est-à-dire qu'ils ils réfèrent, ils raccrochent toute chose à la création d'Allah. C'est ça que connaître Allah dans sa seigneurie. Et encore, on est loin. On vous a fait un tout petit... C'est plus grand, c'est plus vaste que ça. Tout aujourd'hui est fait pour que tu ne connaisses pas ton Seigneur, ou alors tu le connais sans le connaître. Wallahu al-musta'an. Vous n'avez jamais entendu des gens, des mécréants, qui sont partis dans le désert, ou qui sont partis dans la forêt. Nous, on en a entendu, on a vu des témoignages souvent. De gens comme ça qui sont partis, ça y est, ils en ont marre de... Ils veulent faire une pause avec la vie en société, les bâtiments, boulot, métro, dodo, etc. Il part dans le désert, il part à la forêt, il revient converti. Ou alors il revient avec des ambiguïtés, tellement il a réfléchi. Oh, je me suis retrouvé dans le désert, livré à moi-même, et ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a vraiment donné à réfléchir. Ça m'a vraiment donné à réfléchir. Et oui, là, tu t'es trouvé tout seul, pas de dounia, pas le théâtre journalier. Il n'y a pas ce théâtre journalier qui te fait oublier Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, il s'est retrouvé directement. Il y a du soleil, il fait chaud, il y a de l'eau, il y a du sable. Subhanallah, quelle beauté, quelle... Mais ça, c'est pas venu tout seul. Ça tient pas tout seul. Ça tourne pas tout seul. Et hop, il est revenu à la fitra. Cette fitra, cette prédisposition à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a naturel, nous a créé, on essaye de nous la voiler de jour en jour. On essaye même de nous détourner. Je vais pas vous faire un dessin, mais tout ce qui se passe, les hommes qui veulent ressembler aux femmes, les femmes qui veulent ressembler aux hommes, etc., etc., se transformer en monstres, etc., etc. Nous éloigner de la prédisposition naturelle. Mais quand tu vas retourner à la source, ça va te déclencher ta prédisposition naturelle. Et là, tu vas commencer à penser à la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, tu vas commencer à... Tu vas être face à la création d'Allah, forcément. ça va déclencher quelque chose en toi. Donc, pour connaître son Seigneur, ça passe par les signes en premier, les signes universels. La deuxième forme, ça passe par, pour connaître ton Seigneur, par les signes légiférés. Si tu veux connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, ça va passer par les signes universels, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, pour connaître ton Seigneur, ça va passer par les signes légiférés. Qu'est-ce que sont les signes légiférés? Les signes légiférés, c'est ce qu'Allah Ta'ala a légiféré. C'est la révélation, le Coran et la Sunna. Quand tu vas te plonger dans la législation, le Coran et la Sunna, eh ben, ça va t'apprendre à connaître encore plus et à craindre encore plus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et plus tu vas t'y plonger, et plus tu vas évoluer. Si tu t'y plonges avec ton cœur, hein, ça c'est si tu t'y plonges avec ton cœur, tu vas évoluer. Si tu t'y plonges avec tes oreilles, ton nez et ta langue, ton gosier, ça ne va pas dépasser ça, alors ça sera une autre histoire. Mais si tu t'y plonges avec ton cœur, comme les signes universels, hein, avec ton cœur, tu t'ouvres. Alors là, le tawhid, il va rentrer. Le tawhid, il va rentrer. Par la permission d'Allah, bien entendu. Ensuite, on a dit que pour connaître Allah, il faut connaître les différentes formes d'unicité d'Allah ou Ta'ala. On a parlé de la seigneurie. La seigneurie, c'est quoi? On va les citer juste en général et le détail, il viendra dans un autre chapitre. Dans cette petite risala, dans ce petit épître, le détail, il viendra, Inch'Allah Ta'ala. Mais comme vous le savez, ça sera un petit détail pour toi, parce qu'on est dans une risala, un épître pour débutants. On va pas faire un gros détail sur l'unicité d'Allah dès le début, sinon ça risque d'être trop lourd pour des débutants. La méthodologie des salafs, des pieux prédécesseurs et des savants de la sunna, c'est d'aller doucement. On donne les informations au compte-gouttes et elles vont venir se mettre, s'emboîter comme un puzzle jusqu'à ce qu'on ait un bagage solide. Jusqu'à ce qu'on ait un bagage solide. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner en cours de route, il ne faut pas abandonner au bout d'une semaine, etc. Pourquoi? Parce que sinon, on aura, eh ben, en fonction du temps qu'on aura duré, on aura ou bien une pièce du puzzle, deux pièces, trois puzzles. Ceux qui vont patienter, ils vont avoir le puzzle complet. Complet. Et comme vous le savez, si on a un puzzle complet, on a tout. S'il nous manque des pièces, des fois, ça peut être des pièces qui sont, comment dirais-je, fondamentales, à tel point qu'on ne connaîtra même pas le but du puzzle, le sens du puzzle, la forme du puzzle. Il nous manquera des fondamentaux dans le puzzle, où on verra même pas, c'est un puzzle sur quoi en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est pas quelque chose où on prend une partie, on en délaisse une autre. Naam. Wallahu a'lam. Donc tu veux connaître ton Seigneur dans sa seigneurie. La seigneurie, c'est quoi? C'est le fait de connaître son Seigneur dans sa seigneurie, c'est-à-dire dans sa création. Le Seigneur, c'est celui qui a créé toute existence. Le Seigneur, c'est celui qui a la royauté sur tout autre. Le Seigneur, donc on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'absolu, c'est celui qui administre toute chose. Il faut également connaître, c'est important, que le terme Seigneur, quand on va parler d'Allah, le Seigneur, on va parler de l'adorer. Le Seigneur, c'est l'adorer. Mon Seigneur, ça veut dire l'adorer. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi chez les gens de la Sunna, c'est quelque chose de fondamental? Pourquoi? Attention, j'insiste, celui qui va passer à côté de ça, il n'est pas à l'abri de tomber dans une secte, comme les frères musulmans ou autres, les tablirs ou tout autre. Parce que le terme Seigneur, chez les gens de la Sunna, il veut dire l'adorer. Bien entendu que le Seigneur, c'est ce qu'on vient de dire. Le sens du Seigneur, c'est le Créateur, celui qui donne la subsistance, c'est celui qui a la royauté sur toutes choses, le roi de toutes choses, c'est celui qui administre. Mais attention, le terme Seigneur, chez les gens de la Sunna, ça veut dire l'adorer. Pourquoi? Mis à part ce que ça implique, que, bah parce que le Seigneur Allah, c'est lui qu'on adore, sans associé, seul, sans associé, ça vous le savez. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'autres groupes égarés, autres que les gens de la Sunna, qui disent que le Seigneur, ça s'arrête à la seigneurie. Ce qui signifie que lorsqu'on va leur dire qui est l'adoré, ils vont dire c'est le Seigneur. Ils vont traduire l'adoration par le tawhid. Hein. Lorsqu'on va leur dire ça veut dire quoi, la ilaha illallah, ils vont traduire le tawhid par ça veut dire le créateur, l'administrateur et le roi. Non, le tawhid dans l'adoration, le tawhid dans l'absolu, c'est l'adorer. Allah, l'adorer, seul, sans associé. Donc les gens de la Sunna, quand tu vas leur dire qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils vont te dire pas d'adorer, à part Allah, en vérité. D'autres groupes, comme les... Et ça, on va l'expliquer, vous inquiétez pas. Hein. On a un chapitre sur la ilaha illallah. Inch'Allah ta'ala, on essaiera de l'expliquer. Mais il y a d'autres groupes, comme les frères musulmans, ou des groupes parmi les tablirs, lorsqu'on leur dit qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la définition, le sens de la ilaha illallah, ils te disent ça veut dire Allah est le seul créateur, pourvoyeur, administrateur. Ça ne veut pas dire ça, la ilaha illallah. Ça, c'est compris dans la ilaha illallah, mais le sens de la ilaha illallah, c'est pas d'adorer en vérité à part Allah. Parce que le tawhid, l'unicité qui fait entrer en islam, c'est le tawhid, l'unicité de la divinité dans l'adoration. C'est pas le tawhid dans la seigneurie. Là, on va un peu dans le détail alors qu'on le verra plus tard. Hein. Si c'est un peu technique pour certains, ne vous inquiétez pas, on va le voir plus tard. Parce que l'unicité qui fait entrer en islam, c'est pas l'unicité de la seigneurie. Les associateurs à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, les Quraysh, son peuple, ils ont reconnu l'unicité de la seigneurie. Comme quoi, c'est Allah le Seigneur, c'est Allah qui a créé tout le monde. Mais ils n'ont pas reconnu l'unicité de la divinité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient énormément de statues, etc., qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Est-ce qu'ils ont été considérés, est-ce qu'ils sont entrés en islam, est-ce qu'ils ont été considérés comme musulmans? Non. Ils ont été considérés comme associateurs polythéistes et mécréants, et le messager d'Allah, alayhi les a combattus, alors qu'ils reconnaissaient l'unicité de la seigneurie. Donc l'unicité de la seigneurie, c'est une unicité incontournable qui fait partie des trois formes, des trois catégories d'unicité. qu'il est obligatoire de reconnaître, mais ce n'est pas celle qui fait entrer en islam. Attention. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration, c'est celle-ci qui fait entrer en islam. Naam. Donc ça, ce sont des fawaïd qu'il faut connaître. C'est que le Seigneur, Rabbi ou al-Ma'boud, mon Seigneur, c'est l'adorer. C'est l'adorer. Donc ça change tout. Parce que pour certains, ils vous diront dans l'absolu, quand on te dit qui est mon Seigneur, ils diront mon Seigneur, c'est le Créateur. Oui, ton Seigneur, c'est le Créateur. Mais ton Seigneur, tu ne dis pas c'est le Créateur pour renier son adoration. Pour renier son adoration. Le Seigneur, c'est l'adorer. Non. Dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on verra la parole de l'auteur lorsqu'il nous dit wa idha fa idha qila laka man rabbuk, lorsqu'il t'est demandé, lorsqu'il t'est dit qui est ton Seigneur, qui est ton Seigneur, tu réponds Rabbi Allah, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Et à partir de ça, on expliquera inshallah ta'ala, mon Seigneur c'est Allah, celui qui m'a créé, éduqué, et qui est le Seigneur de toutes les tous les mondes, toutes les créatures. Il est mon adoré. Vous voyez? Ça, c'est très important. Il est mon adoré. Et je n'ai pas d'autre adoré que lui. Naam. Donc, dans le cours prochain, Inch'Allah Ta'ala, on expliquera cette parole-là très importante. Alors, n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser vos questions ou à la fin du cours, en live, pendant le cours, à la fin du cours, ou bien vous pouvez poser vos questions sur votre groupe à l'admin. Vous nous excusez, on a beaucoup de questions. Il y a des questions que certains ont posées, peut-être qu'on ne les a pas encore traitées. Inch'Allah Ta'ala, vous inquiétez pas. On va traiter toutes les questions, Inch'Allah Ta'ala. Ne vous inquiétez pas. Des fois, ça met du temps, on s'excuse. Mais au moins, on ne répond pas comme ça à la va-vite. C'est une responsabilité hein, de répondre à une question. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui répondons, on regarde les avis religieux, les fatwas des ulama. Nous, on ne fait pas des fatwas nous-mêmes, on regarde les avis des ulama, et comme on vous a dit, si vraiment on n'a pas trouvé ou quoi, là on appelle un savant, biznillahu ta'ala. Donc, inshallah ta'ala, notre cours touche à sa fin. On se donne, pour cette classe, on se donne rendez-vous demain matin, inshallah ta'ala. Également, il y avait une question. Il y avait une question. Comment on fait toute la journée, parce qu'on a un cours par exemple le matin, comment on fait après toute la journée pour rester dans le rappel? Alors, comme on avait dit, faut se faire un programme. Faites-vous un programme. Le matin, j'ai mon cours. Le matin, j'ai mon cours. Ensuite, ce qu'on peut faire, ça c'est le plus important, il faut se faire un programme. Dans ce programme, tu as le matin, alors, le programme, je vous dis franchement, si vous voulez un vrai programme, il commence avant le fajr au troisième tiers de la nuit. Et là, je ne vais pas trop m'étaler, parce que sinon on part dans un cours très important. l'importance du troisième tiers de la nuit avant le Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, subhanallah, il descend, il demande, qui me demande, qui me demande pardon, qui me demande, qui m'invoque, qui me demande pardon, qui me questionne, que je l'exauce, que je lui donne. Donc il est très important de commencer la journée avant le troisième tiers de la nuit, avant le Fajr. Ta vie, elle peut changer en faisant des doigts, parce que les doigts, on dit qu'elles sont, les invocations, elles sont exaucées. Donc ça commence là, avant le troisième tiers de la nuit. Ensuite, tu as Salat al-Fajr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enfin, il y a une parole qui dit, na'am, un hadith, celui qui fait les quatre unités de l'aube, ça lui suffit à peu près dans le sens du hadith, hein. Ça lui suffit pour son au-delà. Les quatre, c'est-à-dire Al-Fajr, les deux obligatoires Sobh du Fajr, et vous avez les deux autres Fajr qui ne sont pas obligatoires, mais il y a un hadith du prophète Aïssa qui dit, elles ont plus de valeur que tout ce qu'il y a dans cette dunya. Donc déjà avec ça, tu commences ton programme. Ensuite, tes invocations du matin. Ensuite, tu vas commencer avec ton cours. Et ensuite, tu vas prendre par exemple un ouvrage que tu peux lire et tu lis. Et tu lis dans ton programme. Chaque jour, tu prends un ouvrage, un bon ouvrage, hein, recommandé, bien traduit, etc. Si tu es arabophone, tant mieux. Si t'es pas arabophone, un bon ouvrage et tu lis. Si tu as une explication d'un vrai étudiant recommandé, encore mieux, t'écoutes. Dans la journée, t'écoutes. Pour ceux qui sont les anciens élèves du premier groupe, c'est facile parce on a 6 mois de cours et avec des rappels, celui qui veut écouter, il peut écouter toute la journée. Avec la nouvelle classe, c'est un peu plus difficile. Mais je peux vous envoyer vers l'explication que nous avons fait de Qaul Mufid ou la parure de l'étudiant. Écoute dans la journée, écoute des cours. Fais du dhikr. Astaghfirullah, 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 ta vie elle va changer si tu fais du dhikr. Astaghfirullah, 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 ta vie elle va changer. Du dhikr. Et après, tu pratiques tout ça, tout ce que tu apprends, il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. Parce que la foi, elle augmente par l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, pour celles ou ceux, hein, qui sont nouveaux, la règle, c'est quand il y a des questions, ça se passe dans le chat pour les étudiantes, pour les sœurs, ça se passe dans le chat. Elles peuvent poser leurs questions en direct, il n'y a pas de souci, on répond. Et pour les étudiants frères, ça se passe dans le groupe Telegram. Barakallahu fikoum. On fait ça depuis le début, hein, et ça se passe très bien. Walhamdulillah. Wa subhanakallahumma. Wama bihamdik. Également, lorsque votre classe elle sera stabilisée et que j'aurai stabilisé mon emploi du temps et ça commence à se stabiliser, walhamdulillah, on a dit qu'on lancerait les trois matières, les quatre matières en plus, les quatre matières en plus, le hadith, la croyance, les sciences du Coran. Et quoi d'autre? Usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. On lancera ça dans votre classe. Installez-vous bien d'abord à maîtriser les trois matières. Pour ceux qui sont nouveaux, vous ne connaissez pas, vous avez peut-être jamais été des étudiants, stabilisez-vous. Et ceux après qui se sentent à l'aise ou alors qui se disent c'est pas assez, j'en veux encore, on va vous rajouter quatre matières et chacun choisira sa matière. Naram, là au moins Vous aurez des cours, 2 cours par jour, plus les révisions, des fois des devoirs, des choses comme ça. Déjà, ça vous fera un bon petit programme. Naham. Naham. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un institut. On ne vous laisse pas dans la jungle comme ça. Il n'y a pas de cours. Il y a pas... y a beaucoup de choses. Il y aura des choses à lire. Là, on vient de pratiquement terminer le PDF du rappel qu'on a fait sur le Tawhid. Là, il est en train de sortir en PDF. Il y a à peu près une trentaine, je crois, de pages. Il est pratiquement terminé. Ça vous fera de la lecture. Non. Etc. Etc. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a un rappel sur le comportement. On va essayer de vous le faire partager. De vous le partager plutôt. Un rappel sur le comportement. Je vais le partager immédiatement. Ça vous fera un peu de lecture. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses. Non. Barakallahu fiikum. On a une question ici. Alors cette question, elle ressort. C'est pas la première fois qu'elle ressort. Wallahu al-musta'an. Si vous préférez, on a parlé de juste milieu. On a parlé de juste milieu. Vous savez, au début de cours, ça tombe bien, on a parlé de juste milieu. Alors concernant le juste milieu, on va quand même évoquer la question que nous a posée un frère, mais il faut quand même faire attention. Cette question, c'est... Il faut quand même faire attention. Vous allez voir pourquoi je dis ça. J'ai une question concernant la femme mariée qui est mauvaise. La femme mariée qui est mauvaise. Alors, il faut essayer de rester dans le juste milieu. Pourquoi? Avant-hier, j'ai écouté un dars de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, un cours, hein, de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafizahullah, et j'ai même noté le passage. Je me suis dit à l'institut, ce serait bien de leur traduire, tellement c'est moufid. Là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais en gros, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il dit que concernant l'homme et la femme, il faut vraiment que l'homme, faut que ce soit justifié quand on dit la femme. Il faut que ce soit justifié quand on dit la femme elle est mauvaise, la femme elle est comme ci, elle est comme ça. Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il a fait un cours sur ça. Et franchement, c'est étonnant. C'est très étonnant. On vous le fera partager. Peut-être dans le cours de comportement. On va vous faire un. Et puis on fera partager tout l'institut parce que c'est très important. Je vais juste vous donner un indice parce qu'on ne peut pas là. On ne peut pas, c'est tout un cours entier. Hein. Je vous donne juste un indice. Alors ce n'est pas pour dire que ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui sont, comment il a dit, qui sont mauvaises. Il y a aussi des hommes qui sont mauvais. Mais attention, des fois, avec le shaitan, on est. Et c'est ça qu'il a voulu faire comprendre, Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Cheikh Abdelrazak Al-Badr, déjà, dans un premier temps, il dit, tu n'auras jamais la femme à ton image à toi, tu l'auras jamais. Tu veux une femme à ton image à toi, tu ne l'auras jamais. Tu n'auras pas cette femme. Donc, patiente et regarde les qualités de cette femme et ne regarde pas plutôt les défauts, car on a tous des défauts, qui vont te faire oublier les qualités. Cheikh Abdelrazak Al-Badr, vous savez ce qu'il dit? Il dit un jour, il y a un étudiant qui est venu me voir et qui me dit, voilà, je vous raconte, Cheikh, une histoire et j'ai conseillé cette personne. Cette personne, ce frère, je l'ai conseillé moi-même. Donc il raconte l'histoire à Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Il lui dit, voilà, il y a un frère. Sa femme, il s'est marié il n'y a pas longtemps. Sa femme, elle est enceinte et dès qu'elle sent des mauvaises odeurs, je pense que vous connaissez Enfin, peut-être pas toutes. Vous êtes peut-être pas toutes, vous avez été des mamans. Mais pour celles qui sont mamans, vous connaissez. Dès qu'elle sent des odeurs ou des choses comme ça, elle va tout de suite vo aller vomir. Le frère, il est parti au tribunal pour la divorcer. En Arabie, c'est pas comme ça, hein. Je te divorce. Il est parti au tribunal pour la divorcer. Le frère, l'étudiant, il dit, en parlant à Cheikh Abdelazar, qu'il dit, Cheikh Abdelazar, je l'ai conseillé, ce frère, tout ça. Et Cheikh Abdelazar, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ce frère, s'il aurait employé la gentillesse, la sagesse, l'amour, etc., il ne se serait pas conduit comme ça. Ça ne serait pas passé comme ça. Cheikh Abdelazar Kalbadal, je vous assure que c'est un dolce, il est super moufide. Il est super profitable. Je l'ai même noté, hein, j'ai noté la minute, c'est quel dolce, parce qu'il y a au moins 200, je ne sais pas combien de dolos. Et tiens, je me rappelle, c'est le numéro 101 dans l'explication de Adab al-Mufrad. La minute, j'ai oublié, mais je l'ai noté. Et Cheikh Abdelazar Kalbadar, il explique le récit d'un compagnon où il y a un compagnon. Je crois que c'était Abu Darda ou Abu Dhar, j'ai oublié un des deux, je crois que c'est Abu Dhar, un compagnon, où il a dit à sa femme, si tu peux faire à manger, on aura des invités. Et sa femme, elle a dit non, je fais pas. Elle a dit non, je fais pas. Cheikh Abdelazar Khanbadal, il nous dit, regardez le comportement de ce compagnon, alors que c'est très important de recevoir ses invités, de leur faire à manger. Cheikh Abdelazar Kalbadar, il explique, il dit, je pense, Cheikh Abdelazar Kalbadar, il dit, je pense que la dame, la sœur, la compagnonne, elle n'a pas voulu faire à manger parce elle se rappelle que ce compagnon qui était invité dans la Jahiliya, il avait enterré une de ses filles vivantes. Une fille vivante. Vous êtes au courant de ça? Les gens, les Arabes, dans l'époque pré-islamique, ils enterraient les petites filles quand elles naissaient vivantes. Et je crois qu'elle avait gardé quelque chose dans son cœur par rapport. Mais Cheikh Abdelazar Kalbadar, il dit, il est rentré dans l'islam, il a demandé pardon, il s'est repenti, Allah il lui a pardonné. Après, ce compagnon, regardez ce compagnon, Cheikh Abdelazar Kalbadar, il explique. Il dit, il n'a pas eu un comportement avec elle. Pourquoi tu fais pas manger quoi? Toute une histoire. Il a dit, Tayyip, tu fais comme tu veux, d'accord. Il a été doux, il a été. Et à la fin, elle a fait à manger. Subhanallah. À la fin, elle a honoré ses invités. Alors, je me rappelle plus, il faut que je réécoute, etc. Cheikh Abdelazar Kalbadal, il rapporte le hadith du prophète, c'est comme une branche, la femme, qui est, vous savez, elle est comme tordue. Si tu essayes de la redresser, tu vas la casser. Il y a une manière. Il y a une manière. Il y a une méthodologie qui n'est pas donnée à tout le monde. Cheikh Abdelazar Kalbadal, il dit, il y a beaucoup de jeunes qui se marient, mais ils sont pas aptes au mariage. Allahu Akbar. Le terme en arabe, il dit laïsou ahlen lizawaj. Ils ne sont pas aptes au mariage. Ils n'apprennent pas les conditions, comment on se comporte, la patience, toutes ces choses-là, ils ne les apprennent pas. Et ça donne tout ce que ça donne, ce que vous voyez aujourd'hui. Alors je ne dis pas, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes mauvais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes mauvaises. Mais avant de dire qu'il y a des femmes mauvaises, que la femme elle est mauvaise ou que l'homme il est mauvais, ça passe par, beaucoup de choses. Donc voilà. Si, alors, pour répondre maintenant directement, si la femme, vraiment, il s'est avéré qu'elle est mauvaise, faut la conseiller. Et il faut faire des efforts. Faut la conseiller, faut faire des efforts, faut utiliser la douceur. On ne va pas tout de suite, on ne vient pas tout de suite aux choses. On va pas tout de suite fermer la porte, claquer la porte. Non, il y a des étapes. Et même dans la Sunna, Allah Ta'ala, il nous a mentionné ces étapes. Faire la tête, ne plus lui parler, se séparer de la chambre, etc. Il y a beaucoup de choses. Le conseiller avec sagesse. Il y a beaucoup de choses. Ensuite, notre frère nous pose une autre question. Salam alaikum, wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien, ainsi que vous, hein, pareillement. Est-ce que c'est autorisé en islam d'enquêter sur elle pour savoir si c'est une femme fiable? Oui. Vice-versa, on peut enquêter sur la femme avant de se marier et on peut enquêter sur l'homme avant de se marier. Et il y a des savants qui recommandent fortement, oui, il faut se... Ah, ça, c'est sûr qu'il faut se faire une enquête, une vraie enquête. Parce qu'après, quand ça tombe dessus, ça fait mal. Ça fait mal. Taïb. Wa Inch'Allah ta'ala, il y a juste un frère qui est en train d'écrire. Ensuite, on va terminer notre cours, Inch'Allah ta'ala, en vous remerciant pour votre participation et votre patience. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum, oustad, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafik barakallah pour le cours. Est-ce que enseigner la religion, c'est une obligation absolue ou pas? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Il y a des cas où c'est une obligation, oui. Si par exemple, on manque de prêcheurs, on manque de gens qui expliquent. Wafik barakallah. Hayakallah, Sheikh Bilal, hayakallah. Il y a des situations qui font que oui, ça va être une obligation absolue. Si tu es dans un endroit ou situé dans un contexte où il n'y a personne pour expliquer les choses qui sont obligatoires et toi tu les connais, c'est obligatoire pour toi de transmettre la religion, d'enseigner la religion. Et en plus, on a des péchés si on a des connaissances et qu'on les garde que pour soi-même. Ça, c'est blâmable. Attention, c'est blâmable. Naam. Et par contre, il y a des questions religieuses. Ou c'est pas une obligation, mais c'est ça reste une obligation, mais c'est pas une obligation absolue. Ça est une obligation non, qui n'est pas absolue. Wafikum barakallah, wafikum barakallah, wa subhanakallahumma wa ma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa assalamu alaykum. ورحمة الله وبركاته